Oui, bonjour, c'est François Ruffin. Bon, tout à fait. La licence d'office, c'est ce qui permet de, s'il y a un brevet Pfizer et puis tout ça, de s'en passer. Et puis on fait produire dans les usines en France. Mais après, c'est si les usines en France, elles ne veulent pas le produire, et bien à ce moment-là, on recourt à la réquisition pour les forcer à produire ça. Donc c'est deux instruments différents. L'un qui est sur en fait, le brevet lui-même. De pouvoir faire la copie du produit finalement, et le deuxième qui est la réquisition, à savoir que si ça se trouve, les usines, même si on leur donne le brevet, même si on achète leur dose, elles ne voudront pas le faire. Moi, je me fonde sur le fait que Emmanuel Macron nous dit nous sommes en guerre. Et je pense que les citoyens le perçoivent au quotidien qu'ils sont en guerre quand on doit rentrer chez soi avant 18 heures, qu'éventuellement on n'aura plus le droit d'aller à plus d'un kilomètre de chez soi, bref, qu'il y a des interdits en série. En quoi aujourd'hui l'industrie française est en guerre? En quoi elle s'est mise au service de ce combat contre le coronavirus pour nous permettre le plus vite possible de revoir une vie normale? Pendant l'occupation, il n'y avait pas de couvre-feu à 18 heures. Pendant la guerre d'Algérie, il n'y avait pas de couvre-feu à 18 heures. Pendant les révoltes de 2005 dans les banlieues, il n'y avait pas de couvre-feu à 18 heures. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans notre histoire. Et être comme ça, confiné en série, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu non plus dans notre histoire. Donc on est manifestement dans un état particulier. Alors le président dit nous sommes en guerre. Ben, à ce moment-là, les entreprises, et en particulier l'industrie pharmaceutique, doivent se mettre au service de cette guerre. Or, aujourd'hui, elles ne le font pas. On a eu une discussion. On a eu une discussion avec Olivier Véran dans l'hémicycle. Hein. Déjà, c'est quand même bizarre que ça soit au dos tour comme ça de petites questions qu'on finisse par avoir des petits bouts de projet sur ce qui se passe en matière de vaccin. Donc moi, j'ai pas de visibilité aujourd'hui sur ce qui se passe sur le vaccin en France. Le problème sur le vaccin, c'est clairement un problème d'approvisionnement. Moi, je vois, dans la Somme, c'est fini, il n'y aura plus de nouveaux vaccinés au mois de février. Parce qu'on va juste avoir de quoi faire les deuxièmes doses sur ceux qui ont reçu la première. Donc la vaccination, elle n'est pas au ralenti aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Ils nous disent que c'est l'outil pour sortir de la crise. Ok, c'est eux qui nous le disent, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on doit l'avoir, l'outil. Pourquoi on ne l'a pas? Parce qu'on est dépendant de Pfizer, notamment. On est dépendant d'une multinationale américaine.
L'information que j'ai vue la plus claire, c'est le groupe Sanofi qui dit qu'il va faire du flaconnage en Allemagne à partir du mois de juillet. Moi, c'est trois mots, trois erreurs. Alors c'est présenté comme une immense concession de Sanofi. Pourquoi ils font que du flaconnage et pourquoi ils ne vont pas faire la fabrication? Et du packaging et pourquoi ils ne vont pas faire la fabrication du vaccin? Pourquoi seulement sur une chaîne allemande et pas sur des usines en France aussi? Et pourquoi on attend le mois de juillet? Nous on a demandé là si on va être reconfiné dans une semaine. Mes gosses, ils font pas de hand et ils prennent des cours de guitare par visioconférence. Et moi, j'ai des tas de témoignages de gens qui redeviennent obèses parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller dans les salles de sport, qui prennent des antidépresseurs et ainsi de suite. Et Sanofi est en train de nous dire, on va attendre le mois de juillet pour faire des flacons en Allemagne. Et le gouvernement dit, ah merci Sanofi. Mais non, c'est pas du tout à la hauteur. Hein? C'est pas du tout à la hauteur. Donc s'ils veulent pas le faire, parce que le problème de ça, c'est que Sanofi, ça les ennuie, et vous voyez, je suis très poli, ça les ennuie d'être sous-traitants de Pfizer. Mais ils en sont là, parce qu'ils ont, ils en sont là parce qu'ils ont cassé leur recherche. Donc, du coup, bah voilà, ils sont sous-traitants de Pfizer. Mais là, il faut les contraindre maintenant à, si jamais Pfizer est d'accord pour céder son brevet, et du coup, il n'y aurait pas de problème de licence d'office, j'en sais rien. Mais si jamais c'est le cas, il faut les contraindre à faire aujourd'hui de la production du vaccin massivement sur plusieurs chaînes en Europe. Et pas à partir du mois de juillet, mais à partir de début février. Ou alors qu'on nous explique, qu'on nous décrive le processus industriel pour en montrer l'extrême complexité qui fait que ça prendrait 6 mois. Il serait déjà nul pour aller chercher un vaccin qu'ils n'arrivent pas à inventer, mais il serait encore plus nul parce qu'il leur faut 6 mois pour mettre en route des lignes de production. On se moque de nous. Moi, face à cet état-là, je dis, en tout cas, on a deux outils en main. On a la licence d'office pour les labos qui ont les brevets et qui seraient de mauvaise volonté pour les céder. Et on a la réquisition, notamment sur Sanofi, parce que c'est le plus gros producteur en France. Et si c'est la solution, on s'y met dardard. Évidemment, dans le respect de la liberté de vaccination, c'est-à-dire que ceux qui veulent se faire vacciner doivent le pouvoir et le plus vite possible. Et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on ne doit pas leur bourrer le crâne. Vous savez, il faut, c'est une espèce de chape de plomb qui a levé quand le gouvernement, je les entends à la télévision, ce sont les avocats de Sanofi. Ils n'ont pas besoin de se payer des VRP. Ils ont Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher comme avocat Sanofi. Donc, alors que le gouvernement, il devrait être là en train de mettre la pression sur cet immense groupe pharmaceutique en disant « Vous avez merdé pour le fabriquer, ce vaccin. Maintenant, au moins, vous allez récupérer les licences et vous allez le produire le plus vite possible. » Mais non, il est très content de tout ce qui se passe. On supprime encore des postes de chercheurs alors qu'on verse 4 milliards d'euros de dividendes. Et le gouvernement nous dit « C'est une très grande entreprise qui investit dans la recherche et développement et patati et patata. » Donc, il n'y a pas de volonté politique de mettre le couteau sous la gorge des groupes industriels et de les mettre au boulot. On sait encore, vous savez, il y a des trucs, on l'a perdu, le textile, on l'a perdu, résultat, on n'était pas fichu de produire des masques et des surblouses. Là, l'industrie pharmaceutique, on en a encore une. Mais parce qu'il y a l'idéologie dans la tête du gouvernement qu'il faut laisser faire à l'entreprise, on attend qu'il veuille bien faire. Mais non, nous, on n'attend pas qu'on veuille bien s'autoconfiner, qu'on veuille bien rentrer chez nous avant 18h, qu'on veuille bien cesser d'aller au cinéma, dans les bars et les restaurants. On nous dit avec une grande autorité ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais l'industrie, les entreprises, ainsi de suite, eux, ils vivent leur vie tranquillement, quoi.
C'était LCI, parce que j'ai vu cette interview-là. Tu vas me dire, c'est toujours sur mes machins Sanofi. De Paul Hudson, le directeur général, qui dit « Nous allons utiliser notre usine de Francfort en Allemagne pour conditionner le produit qui nous sera fourni par Pfizer Biotech à partir du mois de juillet. » Et j'ai vu que même l'UMA se faisait piéger en un sens parce qu'il faisait un tweet « Industrie pharmaceutique alors que le groupe a accepté de conditionner le vaccin Pfizer Biotech. » Tu vois, c'est presque comme si c'était un truc génial qui nous arrivait parce qu'ils acceptent de fabriquer le vaccin. En fait, ils acceptent de le flaconner, ils ne le fabriquent même pas, en Allemagne, à partir du mois de juillet. Pourquoi ce n'est pas très vite, le plus vite possible? Pourquoi ce n'est pas la fabrication? Et pourquoi ce n'est pas sur plein de chaînes de production en Europe? Si c'est ça la solution. Puisqu'on est sur Sanofi, je conclue, c'était avec LCI là. Je donne rendez-vous, enfin c'est la CGT Sanofi, notre camarade Jean-Louis Perrin, Thierry Baudin et tout ça, qui donne rendez-vous, 52 rue de la Boétie. Donc c'est le siège de Sanofi, dans le 7e arrondissement, enfin c'est en plein cœur de Paris, quoi, dans les beaux quartiers. Jeudi matin, 4 février, à 11h, pour protester. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que Sanofi, aujourd'hui, ça concerne pas seulement les salariés, avec donc là des centaines de suppressions de postes, notamment parmi les chercheurs, mais ça concerne tous les Français, ça concerne notre santé. Mais je crois qu'il faut y aller pour une autre raison. Que je veux saluer, c'est la démarche syndicale, dans la durée, des camarades de la CGT Sanofi et d'autres organisations. Nous, on a des bonnes relations avec eux et tout ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tendance dans les entreprises de temps en temps à défendre juste l'intérêt salarial, et c'est le rôle des syndicats. Mais là, la force de nos camarades de Sanofi depuis des années, c'est qu'ils s'ouvrent à l'intérêt général. Ils n'hésitent pas à accueillir Marine Martin, tu vois, de l'association sur la Dépakine, et ils n'hésitent pas à venir une commission d'enquête sur Mourinx où Sanofi est mise en conne pour ses rejets dans l'atmosphère. Ils n'hésitent pas à faire l'alliance avec des ozos comme nous. Voilà, c'est porte ouverte, et c'est on vient parler du médicament, c'est-à-dire qu'on vient parler de votre santé, on vient parler d'un bien commun, et on ne le garde pas l'entre-soi de notre usine, et parfois avec des syndicats qui disent « Ah, on va dire du mal de notre entreprise » et qui sont un peu frileux là-dessus. Donc moi, je donne rendez-vous jeudi 4 au matin, on va faire le procès de Sanofi. Hein. Jeudi 4, rue de la Boétie, 52 je crois, à 11h du matin, devant le siège de Sanofi, avec entre autres Thierry, Jean-Louis, Sandrine, Marine, Bertrand Burgala de Diabète et Méchant, enfin voilà. Tiens, je voudrais te lire un SMS qui m'a un peu remonté le moral. Bonjour Monsieur Ruffin, je suis pneumologue. Je suis dans les services Covid depuis le début de la crise. Nous sommes très fatigués, mais nous faisons notre travail. Par contre, plein de choses me choquent actuellement dans les discours actuels. On porte une culpabilité sur la population qui est très grave. On utilise le manque de place à l'hôpital et nos conditions de travail pour empêcher les gens de vivre, pour qu'ils se sentent tous les jours un peu plus coupables de voir un ami, un membre de la famille. Loin de moi l'idée de minimiser la gravité de la maladie. Je la vois au quotidien. Mais on oublie les discussions de fond, sur la vieillesse, sur la mort, sur la maladie, sur l'hôpital qui se meurt depuis des années. On oublie de chercher des solutions aussi. Bon, moi, ça m'a fait du bien parce que on est partagé. On a un arbitrage à faire entre la vie biologique et la vie sociale. Tu vois, un jour, je vais chez les soignants à l'hôpital d'Abbeville où il y en a 65 qui sont en arrêt pour cause de Covid, cas contact et tout ça, où la digue, elle est prête d'être dépassée. Ça te donne un son de cloche. Et le lendemain, je vais chez les étudiants à la Citadella et je discute avec eux sur leur non-vie dans le distanciel permanent, l'isolement et les queues qui s'allongent pour aller chercher des colis alimentaires. Et tu es partagé. Et aujourd'hui, c'est comme si ce débat-là, il était interdit. Entre la jeunesse et la vieillesse, entre la vie biologique et la vie sociale, à quoi on est prêt à renoncer, qu'est-ce qu'on souhaite pas. Je reçois des messages d'un gars qui dit « À force de ne plus vivre pour ne pas mourir, on va sûrement mourir sans avoir vécu. » Et je pense que c'est une interrogation qu'on a tous. Or, c'est comme si ce débat était interdit parce que tu as une espèce d'alliance entre pouvoir autoritaire et impératif sanitaire, tu vois. Et donc ça, ça tue tout débat. Or, moi, je pense que, au contraire, dans ce temps-là, il y a la nécessité de discuter de ce qu'on veut comme société aujourd'hui et de ce qu'on veut construire pour demain. Tu vois, c'est comme si, parce qu'on te disait « urgence, mort », tout de suite, il y avait un chantage qui s'effectuait et tu n'avais plus le droit de parler. Et donc, l'issue pour les citoyens qui en ont marre de ça, c'est de se réfugier à l'autre bout en disant « les masques, les vaccins, tout ça, on n'en a plus rien à foutre, laissez-nous tranquilles et c'est tout ». Et or, je suis sûr que même en eux-mêmes, il y a encore une part d'eux qui pensent à leur grand-mère, à leurs parents et tout ça. La vérité, c'est à mon sens que le corps social aujourd'hui, il est partagé sur cette question-là. Que, y compris au sein des partis politiques, c'est partagé. Et je dirais, au sein même de chacun, c'est partagé. Et on balance entre ces deux pôles. Mais il n'y a aucun lieu pour en discuter, pour en décider ensemble. C'est notre destin qui est remis entre les mains d'un souverain. Par exemple, tu vois la comédie. Parce que ça tourne à la comédie des fois, du week-end dernier, quoi, où on te dit, la une du JDD, confinement cette semaine, quoi. Castex, il vient dire qu'il va y avoir des décisions très importantes qui vont être prises. Delfrécy, le président du conseil scientifique, qui dit, ça y est, c'est acté pour mercredi. Le lendemain, on te dit, non, finalement, il n'y a rien qui est décidé. Le surlendemain, si, ça y est, il va vraiment y avoir des décisions. Puis finalement, enfin, tu vois, et tu as l'impression d'être un pantin entre les mains du prince souverain, et tu lis des phrases comme « il y a deux camps au sein du gouvernement ». Mais tu vois, c'est derrière des portes closes qui discutent, et ça ne peut pas être en public qui discute avec nous pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. On te dit « Macron réfléchit à un dispositif différent des deux premiers confinements ». Mais il ne veut pas y réfléchir avec nous. Pourquoi, tu vois, c'est comme si on était suspendu aux lèvres du monarque et qu'on attendait ce qu'il allait décider pour les soignants, pour les étudiants, pour les commerçants, pour un peu tout. Alors que je pense qu'il y a moyen, et ça serait un facteur d'efficacité, parce que si encore on leur remettait les pleins pouvoirs et qu'il y avait des résultats merveilleux, on comprendrait. Mais là, tu regardes, allez, on va refaire la liste, hein, masque, test, surblouse, là maintenant les vaccins, je veux dire, c'est des bides qui se prennent à chaque fois, donc à un moment, ils pourraient nous écouter. Peut-être que pendant l'été dernier, tu vois, quand je disais, il faut mettre le paquet sur une mobilisation générale des infirmières qui ont quitté le métier, et des infirmiers, les faire revenir, évidemment leur donner la prime pour relever la hauteur de la digue, tu vois. Bon, bah, peut-être que ça aurait été utile quand je dis, voilà, il faudrait une convention citoyenne sur le coronavirus qui associe tous les partenaires et qui les mettent autour d'une table et qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on veut. J'ai vu que tu as vu Paris. Ils ont monté un conseil, je crois que ça s'appelle un conseil citoyen consultatif sur, voilà, ils se mettent ensemble puis ils réfléchissent. En tout cas, il y en a. Et puis, même, tu vois, je vais à la préfecture à Amiens tu sais, il y a un comité qui se réunit toutes les semaines. Là, je vais sécher parce que je dois aller pour ma fille au rendez-vous parents prof. Toutes les semaines, on se réunit à la préfecture et tu as un lieu de débat, de discussion, de parole. Et ce lieu-là qui existe à la préfecture de la Somme, qui existe à Paris, il n'existe pas au niveau national. Et c'est sûrement pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, là, elle parle de tout sauf du Covid. C'est quand même incroyable. Ça envahit la société française. Et l'Assemblée, qui avait juste une petite mission d'information sur le Covid, elle l'élimine. Il n'y en a même plus besoin de ça. Et on a encore moins des débats, tu vois, couvre-feu décidé à 18h. Jamais ça s'est vu pendant l'occupation. Jamais ça s'est vu pendant la guerre d'Algérie. Jamais ça s'est vu pendant les émeutes de 2005 dans les banlieues. Ça s'est jamais vu dans notre histoire. Et c'est décidé sans passer par un vote de l'Assemblée nationale. Bon. Et tout est comme ça. Les étudiants, tu vois, tu as Brigitte Macron qui dit « Le président est extrêmement sensibilisé sur la question étudiante. » Tu croirais vraiment au temps de la monarchie. Il faut que le souverain soit sensibilisé. Tu vois que tu es réussi à toucher son cœur pour que finalement, il y a une grâce présidentielle qui tombe du ciel et qui accorde comme ça un jour de présentiel par semaine. Bon, je suis allé voir les étudiants à côté. Et ils me disaient, mais nous, un jour, ça ne nous arrange pas du tout parce qu'on vient de loin. Est-ce qu'on va venir pour une journée? Non, il y en a plein qui ne vont pas venir. Ce qu'on aurait voulu, c'était une semaine sur deux. Mais ça, il n'y a pas eu de discussion avec les étudiants pour décider de ça. C'est comme il y a eu un échange avec une députée républicaine, je crois c'est Émilie Bonivar, qui doit être députée dans les Alpes, et qui vient dire, ben voilà, pour avoir une explication sur pourquoi vous n'ouvrez pas les pistes de ski, il a fallu qu'on aille devant le Conseil d'État. Bon, ils nous ont donné tort, mais au moins on a eu les raisons de pourquoi vous refusez de les ouvrir. Donc c'est pas à l'Assemblée que ça se passe, mais c'est devant le Conseil d'État maintenant, tu vois. Donc bon, là on sait que Castex, il a finalement décidé, tu vois, il nous fait un petit cadeau, qu'on va avoir le droit d'un vote et un débat sur un éventuel reconfinement. J'ai écrit une lettre à Ferrand, parce que si c'est pour faire ce qu'ils appellent un débat, il faut comprendre ce que c'est qu'un débat, hein. C'est chaque groupe qui va avoir le droit à 5 minutes de temps de parole à la tribune pour dire ce qu'il en pense, et après, on votera. Mais il n'y a pas du tout d'échange. Alors, je pense que c'est un thème où ce n'est pas comme si, moi, ma conviction intime, elle était vraiment forgée et tout ça. Je peux évoluer en écoutant les uns les autres me rendre à des arguments, tu vois, les peser. Mais ça, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Chacun, de manière rigide, va poser ses 5 minutes et après, il y aura un vote et point barre. Je vais demander donc au président Ferrand à ce qu'il y ait des auditions des soignants, des étudiants, des commerçants et ainsi de suite, pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans le pays, quelle est la nécessité, comment on doit organiser ça. Et pour qu'ensuite, il y ait de véritables temps d'échange aussi entre les représentants de la nation, avant que la décision soit prise du confinement ou du non-confinement, et de quel type de confinement, et de quel secteur, et de comment on peut permettre aux uns et aux autres de encore vivre socialement en protégeant la vie biologique, tu vois. Bon, mais donc, je vais faire ça, j'ai pas d'illusion, mais peut-être qu'il y aura une poussée générale qui dira « Oui, oui, quand même, le Parlement doit devenir un vrai lieu. » Bon, hein, bon. Mais je redemande, moi, ma convention citoyenne sur le coronavirus. D'autant que c'est pas comme si on en parlait au passé, parce qu'on peut dire « Ah, il est trop tard, c'est avant qu'il fallait proposer. » D'abord, j'ai proposé avant. Mais quand on entend les chercheurs, les soignants et tout ça, ils nous disent « Bon, ça a peut-être commencé à s'améliorer à partir de l'automne. » Il y en a d'autres qui te disent « Oh, là, le plus dur, ça va être l'hiver 2021-2022. » Puis t'as Pelou, j'ai entendu, qui dit « Il y en a pour 3 ans. » Bon, donc ça veut dire qu'il faut vivre avec, mais il ne faut pas vivre sans. Sans tout ce qui fait le bonheur, ce qui peut faire la joie, ce qui peut faire les liens, tu vois. Et c'est ça qu'on nous demande de détruire. Page culturelle. Lundi, j'ai visité Abbeville, donc dans mon coin, on va dire... Je ne sais pas si c'est le musée du Graphe, mais enfin, c'est des immeubles qui doivent être détruits dans un quartier très populaire qui s'appelle Les Platanes. Et un gars qui s'appelle Yann Collignon, qui est à un skate, une association de skate, a décidé de faire venir tous ses copains de toute la France, mais même d'Allemagne, d'Autriche, des États-Unis, des graffeurs, pour leur donner chacun une pièce de ces immeubles qui vont être détruits et dire « Voilà, on vous donne la pièce, faites-en ce que vous voulez. » En termes de d'abord, donc c'est une histoire du graphe. Tu pars du tag, donc, qui est la représentation la plus basique, hein, et ensuite tu as le slop ou le slog. Tu sais ça, toi? Ou le flop, le flop. Ah, c'est le flop. Je suis nul, hein. Je serais jeune, ça se saurait. Le flop, c'est en fait le tag, mais tu vois, avec des lettres arrondies, et tu as une deuxième couche de peinture au-dessus, tu vois. Bon. Et donc tu avances dans les pièces comme ça, avec une histoire du graphe, et ça bascule vers l'art contemporain, en vérité. C'est génial. Génial. Franchement, déjà, pendant le budget, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais proposé un amendement qui disait il faut mettre de la beauté dans nos villes, on doit avoir des équipes de graffeurs qui viennent avec les gamins pour décorer les bâtiments et tout ça. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a amené des... sur l'extérieur, il y a des gamins qui ont fait des trucs en bas. Évidemment, en haut, en hauteur, sur les nacelles et tout ça, c'est pas les gosses qui l'ont fait, quoi. Mais, et donc, c'est des vrais pros qui sont venus. C'est hyper beau. Et finalement, il a été autorisé à faire ça parce que les immeubles vont être détruits. Et dans pas longtemps. Donc déjà, on va essayer de faire notre possible pour que ce musée, il existe. Parce que là, lui, et puis il a trois stagiaires de BTS, je crois, qui sont prêts à accueillir du public, mais ils n'ont pas le droit d'accueillir du public. Donc, il y a moi, tu vois, privilégié qui suis entré à l'intérieur. Mais sinon, il y a des gens qui veulent aller le voir, même de Paris, de Lille et tout ça. C'est dans le milieu, c'est vraiment parmi les plus grands graffeurs qui sont venus. D'ailleurs, il y a notre copain Swede One, tu te souviens? Celui qui a fait le Marcel. Et bien là, il a représenté JP, qui est l'un des animateurs du quartier, hein, des Platanes. Et bien il a fait pareil, tu vois, en lui foutant une auréole et tout ça, sur un grand mur dans une pièce et tout ça. Donc voilà, les plus grands graffeurs sont venus faire ça à Abbeville. C'est quand même. Et alors, ce qui est génial, c'est que je vais voir Marivonne après, qui habite vraiment de l'autre côté de la rue. Donc pour eux, c'est pas le même quartier, tu vois. Tu traverses une rue, puis tu es dans un autre quartier. Mais. La réception, tu vois, de l'art contemporain et du graphe par nos camarades d'Abbeville, c'est pas gagné d'avance, quoi. Alors, t'as Marivonne qui dit « Ah, ce qui meurt d'envie, les gens ici, c'est d'aller voir le musée en face. » Ah bon ? Ouais, de l'autre côté de la route, là. Au départ, il disait « C'est quoi ce bordel ? Il gaspille de l'argent là-dedans. » Et maintenant que ça se voit sur les photos, ils n'ont qu'une envie d'y aller et de traverser la route. Mais ils peuvent pas traverser la route parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller voir à l'intérieur, parce que c'est considéré quasiment comme un musée, gratuit et tout ça, mais c'est considéré comme un musée. Donc voilà, je pense que c'est une expérience super réussie du point de vue de l'art, pour moi, hein, et c'est une expérience aussi super réussie dans le contact avec les habitants qui ont envie de s'approprier ça, et leurs gosses, ils sont allés un peu et tout ça. Donc bon, maintenant, ça doit être détruit fin juin. Mais alors, si le confinement est dur, ils ne pourront jamais le montrer. Donc, on va essayer de mener la bagarre pour dire non, repoussez au moins jusqu'au mois de septembre que vous qui passez dans le coin, parce que je sais que vous n'avez qu'un rêve, c'est de passer par la Somme, hein, d'aller dans la Somme, visiter les plages du Nord, du Pas-de-Calais, faire du tourisme à Moucron. Et donc, tout ça, ça passe par chez nous, ou bien à leur baie de Somme. Et donc, vous pourrez vous arrêter à Abbeville pour aller voir ce musée du grave. Donc, on va essayer de tenir ouvert pendant l'été. Mais tu sais, je leur disais, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez ouvrir. Et puis, nous, on a un film, c'est pareil. Là. On est un peu dans les... Tu vois, comme le cheval qui est prêt à partir. Et puis, la porte, elle ne s'ouvre pas, tu vois. Donc, on piétine parce qu'on a envie d'aller le montrer, notre film. Et eux, ils ont envie d'aller leur montrer leur exposition. Ça rappelle un peu... Je ne sais pas si tu connais Le désert des Tartares de Dino Buzzati, non ? Le désert des Tartares, donc... D'ailleurs, Brel a fait une chanson avec ça, Zangra. Je m'appelle Zangra et je suis colonel et je ne serai pas héros. Tu ne connais pas ça? Donc, je vais te la mettre après la chanson. Mais c'est quoi l'histoire? C'est le mec, il est militaire et on le fait attendre dans une caserne et il n'y a rien qui se passe. L'ennemi, il n'arrive pas, tu vois. Il attend pendant des décennies et non, l'ennemi, il ne vient pas, quoi. Alors que lui, il a envie de se battre, il a envie de devenir glorieux et tout ça et ça ne vient pas. Et finalement, il prend sa retraite et boum, à ce moment-là, l'ennemi, il arrive. Pas de bol, tu vois. Donc, du coup, à la place, et ben voilà. Je te la mets, la chanson. Et donc, voilà, là, on est un peu des espèces de Zangra, quoi. On attend. Alors, parce qu'il y a le Covid, on se demande quand est-ce que tout ça va pouvoir rouvrir, les bars, les salles de ciné, les théâtres, les musées, et ainsi de suite, chacun avec ses projets à porter. En fait, je pense que pour tout le monde, et c'est une source de malheur, il y a un horizon qui s'est fermé, on ne voit plus loin que le lendemain, même pas la semaine d'après. Est-ce que je vais pouvoir voir ma famille qui n'habite pas dans la région pendant les vacances de février? Enfin, tu vois, et chacun, c'est à la fois dû à la maladie, mais c'est dû à un choix de justice, de gestion politique qui fait qu'on est dans, on nous inscrit dans une espèce d'urgence permanente qui nous empêche de relever le nez et se dire, bon, ben voilà, comment pendant les 6 mois, les prochains mois, les scénarios, pendant la prochaine année, les scénarios possibles, tu vois, et ça n'existe pas. Donc on est comme des espèces de Zangras. Attends, je te mets la chanson. Brel Olympia 61, c'est pas le meilleur, tu sais, c'est le meilleur, c'est Brel Olympia 64.
Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant au fort de Bellanzio qui domine la plaine. D'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. Alors je vais au bourg voir les filles en troupeau, mais elles rêvent d'amour et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangara et déjà capitaine au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. Alors je vais au bourg voir la jeune Consuelo.